franceinter.fr.
Voilà une proposition d'urgence à la une de la science aujourd'hui, puisque dans une tribune publiée sur lemonde.fr ce week-end, le secrétaire général du MoDem, Yann Verling, s'adresse au ministre de la Transition écologique, Nicolas Hulot. Il propose de modifier la loi française pour doter les grands singes d'un statut particulier d'hominidé. Axel, Yann Verling est l'invité de la une.
Oui Mathieu, et bonjour Yann Verling.
Bonjour.
On l'a dit, alors vous êtes secrétaire général du MoDem, militant depuis longtemps pour la cause animale. Pour vous accompagner au téléphone, on est aussi avec Sabrina Krief, la primatologue. Bonjour.
Bonjour.
Yann Verling, pour commencer, pourquoi avoir choisi d'écrire et de publier ce texte maintenant? Il y a un déclencheur?
Pas particulièrement de déclencheur, une prise de conscience à mon avis qu'il faut avoir maintenant. Parce que j'ai beaucoup lu ces derniers temps sur cette question-là et j'ai été préoccupé de constater que des ONG, des associations, des scientifiques, dont Sabrina Krief, alertent régulièrement tout le monde sur la situation dramatique des grands singes, qui sont des hominidés comme nous, comme vous, comme moi, et qui sont en phase de disparition. Voilà, les chances de 2050 est estimée à peu près de manière raisonnable par beaucoup, et je crois que il n'y a pas que les scientifiques et les ONG qui doivent se mobiliser, et tout le monde doit se mobiliser. Comme je suis un acteur politique, je me dis pourquoi pas aussi la sphère politique.
Concrètement, en quoi ce statut que vous proposez aidera ces grands singes qui sont absents du territoire français?
Je crois que le symbole, c'est quelque chose de très important pour démarrer un combat. Le symbole, c'est souvent, ça passe par un texte législatif. Hein, un pays comme la France qui adopterait demain un statut particulier qui donnerait aux grands singes un statut d'hominidé, un statut à part, particulier, entre l'humain et l'animal, on va dire. Ça ferait un déclencheur, à mon avis. Pour d'autres pays, pour faire la même chose, et puis pour faire monter la pression sur le fait qu'il nous reste peu de temps pour agir.
Mais franchement, ça intéresse les hommes politiques à l'Assemblée nationale ou au Sénat, les grands singes?
Écoutez, je ne me suis pas posé la question quand j'ai écrit ça, c'était une affaire de conviction personnelle d'abord. Je peux vous dire que d'ores et déjà aujourd'hui, quelques jours après avoir fait cette tribune, j'ai beaucoup de retours d'amis politiques qui me disent « en fait, j'avais jamais pensé, mais t'as raison, c'est gravissime ce qui est en train de se passer, c'est une responsabilité fondamentale, une grande cause, il faut qu'on s'y mette, on est avec toi ».
Sabrina Krief, votre regard de primatologue nous intéresse. 2050, c'est vraiment la date butoir pour les grands singes?
L'Union internationale pour la conservation de la nature vraiment lance un message d'alerte. Hein. En 2016, elle a classifié gorilles et orang-outans en danger critique d'extinction. Donc aujourd'hui, il nous reste peu de temps pour agir. Je pense que le fait aussi qu'on ait découvert une nouvelle espèce d'orang-outan dont on a parlé ensemble il y a 2 mois et qu'il ne reste que 800 individus de cette espèce à peine découverte, c'est aussi un élément qui fait réagir et qui inquiète.
Vous êtes d'accord, pardon, des titres, des symboles, c'est important pour les sauvegarder?
C'est important parce que ce sont des espèces emblématiques de la forêt tropicale et au-delà d'une espèce ou de cette espèce de grand singe, c'est la biodiversité qui est représentée, c'est la forêt tropicale qui est un enjeu majeur en termes de réchauffement climatique. Donc il faut vraiment considérer que ce sont des espèces fonctionnelles. C'est un message pour les consommateurs, pour les hommes politiques et pour l'ensemble de la planète. Il ne s'agit pas juste de sauver quelques espèces de grands singes.
Yann Verling, dans votre texte, vous vous adressez directement à notre ministre, Nicolas Hulot. Est-ce que vous avez eu l'occasion de discuter avec lui de ce sujet?
J'en avais discuté avec lui il y a quelques mois, quand il venait de prendre ses fonctions, et il partage le point de vue que j'ai. Hein. Après, comment faire, comment agir? Moi, je propose aujourd'hui qu'on utilise les moyens dont on dispose. Vous savez, quand vous menez un combat, vous vous demandez ce que moi, je peux faire personnellement pour agir. Quand je dis moi, c'est la France, c'est le pays dans lequel je suis, l'État, la majorité politique à laquelle j'appartiens. Je me dis, vous m'avez demandé tout à l'heure, pourquoi maintenant? Aussi parce qu'on vient de gagner des élections législatives et présidentielles et qu'on peut se poser la question de à quoi on va servir pendant 5 ans. Et là, je me dis que peut-être une utilité, on va dire, qui dépasse un petit peu ma seule personne, c'est de faire en sorte que la France agisse.
Alors concrètement, qu'est-ce que ce serait justement si on arrive à inscrire ce statut d'hominidé dans la loi française? Ça veut dire quoi pour vous alors? Qu'est-ce que vous réclamez?
Pour moi, ça c'est pas pour moi, c'est pour les grands singes. Et créer un statut tel, ça veut dire que demain, il y aurait des implications juridiques, c'est-à-dire qu'on ne pourrait plus faire n'importe quoi comme on le fait aujourd'hui avec les grands singes. Bon, déjà aujourd'hui, on a déjà fait des choses dans le droit français. On ne peut pas aujourd'hui faire d'expérimentation à des fins scientifiques sur des grands singes. Ça veut dire qu'on a déjà compris quelque chose en réalité. Le législateur a déjà compris. Mais il faut aller au-delà maintenant, il faut aller jusqu'au bout même. Et donc, il faut faire un statut général qui fait que demain, un grand singe, un gorille, un orang-outan, un chimpanzé, un bonobo ne pourra être pas maltraité, ne pourra pas être tué, ne pourra pas être enfermé, sauf si évidemment il est né en captivité. Toute une série de choses juridiques qui font que on aura là un statut particulier qui fera qu'on les protégera. Alors bien sûr, il n'y en a pas en France, ça c'est sûr. Enfin, il n'y en a pas en France, en tout cas dans des milieux sauvages. Mais l'idée, il est vraiment de porter une idée qui, par un grand pays, puisse faire tache d'huile sur l'ensemble de la planète.
Vous avez aussi une proposition pour agir à l'étranger, au niveau de l'UNESCO notamment?
Oui, alors je multiplie les idées dans cette tribune pour dire qu'il faut agir tous azimuts en réalité, parce qu'encore une fois, il y a urgence. L'autre idée, c'est effectivement, là aussi, c'est pas mon idée, je n'ai fait que rassembler un certain nombre d'idées pour essayer d'avancer. C'est de classer effectivement les espèces de grands singes, les 7 espèces. Sabrina Kreff m'avait rappelé qu'il y en avait 7 et pas que 4. Il y a 7 espèces, que les 7 espèces de grands singes soient considérées comme patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO.
Sabrina Kreff, ceux qui agissent directement et détruisent l'habitat de ces singes, à quoi sont-ils sensibles aujourd'hui?
Je pense que là, il est vraiment clair que nous sommes les consommateurs des habitats où vivent les grands singes. Et donc, c'est vraiment ça qui est important, c'est que même si on n'a pas de grands singes sur le territoire français à l'état sauvage, on en a en captivité dans des parcs zoologiques, on en montre sur les plateaux télé encore aujourd'hui. Il y a encore des cirques qui présentent des grands singes lors des démonstrations. Donc, il y a vraiment aujourd'hui matière à agir. La destruction de l'habitat, le braconnage, ça nous concerne aussi. Il y a des grands singes qui arrivent aujourd'hui encore en Europe, qui passent par nos aéroports. Et le droit français a un rôle vraiment important à jouer. Et l'UNESCO aussi pourrait jouer un rôle. On avait réfléchi il y a une dizaine d'années à ce statut particulier d'espèce patrimoine mondial de l'humanité. Et je pense que la situation étant de plus en plus critique, c'est aujourd'hui qu'il faut agir.
Merci beaucoup à tous les deux. Merci Sabrina Kreff. Vous repartez en Ouganda, je crois d'ailleurs, auprès des chimpanzés dans pas très longtemps.
Dans quelques jours.
Voilà. Eh bien, bonne campagne avec eux. Et Yann Verling, bon combat de
Merci.
Votre côté pour justement la sauvegarde de ces grands singes avec ce texte qu'on peut lire encore sur le site du Monde, lemonde.fr. Merci à vous et Axel, à demain.
À demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, les dégâts du travail de nuit chez les femmes. Des chercheurs mettent en garde et mettent en avant l'augmentation du nombre de cancers pour les femmes qui travaillent la nuit sur de longues périodes. Ils ont analysé 61 études couvrant plusieurs millions de participants et ont observé qu'il y avait 19% de cancers en plus chez ces femmes. En majorité, des cancers de la peau et du sein. De tous les métiers, le groupe des infirmières possède le risque de cancer du sein le plus élevé. Les auteurs insistent sur la nécessité d'effectuer des tests réguliers pour les femmes qui travaillent de nuit pendant de longues durées. L'accoutumance des microbes des villes aux médicaments, une étude américaine parue dans la revue Écosphère a comparé les micro-organismes contenus dans la vase des cours d'eau urbains et celle des zones périurbaines. Les chercheurs ont testé sur ces bactéries et autres algues différents déchets pharmaceutiques comme la morphine, certains antibiotiques ou anti-allergiques. Résultat, les populations microbiennes divergent entre la banlieue et la ville. Il y a plus de bactéries résistantes aux antibiotiques en ville que dans les zones périurbaines du fait d'une exposition plus importante à ces molécules. Et puis une larve sans jambes, championne de saut en longueur, longue de 3 mm, elle peut sauter 30 fois sa taille avec une vitesse d'un mètre par seconde. À notre échelle, cela correspondrait à faire un bond de 60 mètres. Des chercheurs américains ont capturé l'exploit à l'aide d'une caméra à très haute vitesse. Ils révèlent que la larve utilise la pression hydrostatique pour se propulser. En se recourbant, elle déplace son fluide corporel vers le sol pour s'aplatir et puis elle relâche la pression et se catapulte dans les airs. Les chercheurs ne comprennent toujours pas l'intérêt de cette capacité puisqu'avant de se transformer en mouche, la larve ne quitte jamais son foyer, mais cette vidéo est à voir sur la page Facebook de La Tête au Carré.